BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce grand rendez-vous des marchés financiers cet après-midi sur BFM Business. À la une de l'actualité, cette réaction modérée des marchés après l'attaque ce week-end d'Israël par l'Iran. Ça n'a pas entraîné un mouvement de panique sur les marchés. Les cours du pétrole sont même en légère baisse. Comment expliquer ce calme et cette réaction posée? On va y revenir dans un instant. On en parlera aussi avec nos invités dans le club à partir de 17h. Un nouveau chiffre confirme la vigueur de l'économie américaine. Les ventes au détail ont progressé de 0,7% au mois de mars. Ça confirme une fois encore qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux aux États-Unis. On va en parler dans un instant avec John Plassard. Et puis on parlera aussi d'Apple qui a été détrôné par Samsung sur le marché mondial des smartphones. Les ventes d'iPhone ont chuté de pratiquement 10% au premier trimestre. On en parlera aussi tout à l'heure avec Julien Marion et la famille BFM Bourse. Ce sera aux environs de 16h45. Mais tout de suite, l'ouverture des marchés américains avec nos deux spécialistes, Aude Kersulek en direct d'Euronext et John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour à tous les deux, ravi de vous retrouver. Aude, l'ouverture des marchés américains, comment est-ce que ça s'oriente ?
Ouverture en hausse, hein, ça y est, en belle hausse même pour cette ouverture, plus 0,7% pour le S&P, plus 0,5% pour le Nasdaq et même plus de 1% de hausse pour le Dow Jones. Voilà la saison des résultats d'entreprise en fait qui est sur le point de prendre totalement le pas sur ce qui s'est passé ce week-end, les tensions au Moyen-Orient et le risque de réplique d'Israël. Alors finalement, on rebondit aussi sur les bons résultats donc de Goldman Sachs, hein, quasiment 6% de hausse, on y reviendra. Et sur l'espoir, évidemment, que le conflit au Moyen-Orient ne s'aggrave pas davantage. La volatilité est très basse, hein, on est toujours sur les 16 points. Attention tout de même aux taux, hein, les taux obligataires qui connaissent une flambée depuis ce week-end, donc forcément, ça coïncide avec l'attaque de Téhéran. Le taux 10 ans américain qui est tout de même au-dessus de 4,6%.
Merci beaucoup, Aude. Vous restez avec nous. On va donner la parole à John Plassard. John, bonjour. On va commencer par les publications macroéconomiques, je le disais en titre, les ventes au détail aux États-Unis qui ont progressé de 0,7% au mois de mars. Je crois que c'est pratiquement deux fois supérieur au consensus.
Oui, tout à fait. Le consensus, Stéphane, attendait 0,3%. Il faut rappeler que les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse. C'était normalement 0,6%. On est à 0,9% de croissance. Donc, c'est une vigueur extrêmement importante aux États-Unis. Si on regarde un tout petit peu plus dans les détails, on voit que ceux qui ont le plus bénéficié de ces hausses sont les détaillants hors magasin et les stations-service. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, ça veut dire que les prix à la pompe ont monté et les Américains, pour avoir le même nombre d'essence pour remplir leur voiture, eh bien, ont dépensé plus. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Américains ont dépensé plus pour avoir moins. Donc, ce n'est pas dû à un effet de vente supplémentaire, mais plutôt à une inflation qui pousse les Américains à dépenser plus. Et c'est ce que nous traduit ces chiffres du jour avec, il faut le rappeler, une vigueur économique américaine qui, au premier trimestre, devrait être de plus de 2%.
Et dans l'actualité également, on va parler des banques centrales, Aude, puisque plusieurs membres de la Fed ont pris la parole ce week-end.
Et ouais, même si ce week-end on a beaucoup parlé missiles balistiques ou dôme de fer, on continue aussi de parler de sujets qui nous amusent un peu plus sur les marchés, les fameuses baisses de taux avant la réunion de la réserve fédérale dans deux semaines. Cette semaine, ça va être les derniers jours de la quiet period, hein, où les membres vont encore pouvoir s'exprimer, les gouverneurs de la Fed. Alors aujourd'hui, on a Mary Daly pour la Fed de San Francisco qui va parler. Elle est plutôt dovish, hein, John. Alors finalement, de qui doit-on vraiment se méfier et qu'est-ce qui pourrait être dit ?
Alors écoutez, Aude, c'est très compliqué parce que on a vu ce week-end d'un côté que le président de la Fed de Minneapolis, Kashkari, a dit qu'il pensait qu'il pourrait ne pas y avoir de baisse de taux cette année, alors que de l'autre côté, le président de la Fed de New York, Williams, a dit que les premières baisses de taux devraient arriver en juin. Donc ils disent tout et son contraire. Mais ce qui sera très important en termes monétaires de suivre cette semaine, c'est bien évidemment la publication du Beige Book book mercredi. Vous savez, le beige book, c'est le fameux document préparatoire avant la réunion de la réserve fédérale américaine qui aura lieu le 1er mai. Et donc, on en apprendra un tout petit peu plus sur les intentions, sur les réelles intentions des membres de la Fed sur des baisses de taux ou pas. Et il faut rappeler aussi aujourd'hui, ce qui est important, c'est que de plus en plus de grandes banques, et notamment Goldman Sachs, pour la première fois évoquent, même si ce n'est pas leur scénario central, qu'il pourrait ne pas y avoir de baisse de taux cette année. Donc ça devient presque consensuel, même si le consensus lui-même parie sur deux baisses de taux cette année.
Voilà, et en cas de statu quo monétaire aux États-Unis jusqu'aux élections, au moins, quelles conséquences pour la Banque Centrale Européenne ? En quoi est-ce que ça réduit les marges de manœuvre ? On en parlera dans le club tout à l'heure, à 17h avec nos invités. John, nous sommes à 203 jours de l'élection présidentielle américaine. L'attaque de l'Iran sur Israël ce week-end, évidemment, s'est invitée dans cette campagne pour les élections.
Et puis, il faut rappeler les conditions et surtout la journée historique aujourd'hui. Donald Trump, qui est le premier président américain à subir un procès au pénal. Et donc, on va beaucoup en parler. Et il essaye, bien évidemment, l'ancien président et potentiellement futur président, eh bien, de s'immiscer dans toutes les discussions, et notamment les discussions géopolitiques. Et tenez-vous bien, Stéphane, eh bien, Donald Trump a déclaré que l'attaque aérienne massive qu'on a vue contre Israël ce week-end n'aurait pas eu lieu si son administration avait été à la Maison-Blanche. Il a même dit que l'administration Biden avait fait preuve d'une faiblesse incroyable. Donc on imagine ici que malgré des questions géopolitiques très importantes qui n'ont rien à voir, enfin directement avec les États-Unis, eh bien Donald Trump essaye d'en tirer profit, et on va voir dans les prochaines semaines et les prochains mois, eh bien ce type de discussion géopolitique sur le Proche-Orient, sur l'Ukraine, eh bien s'immiscer dans la politique américaine. Et donc très intéressant de regarder ce qui s'y passe aujourd'hui.
On passe à l'actualité entreprise avec vous, Aude, et ce changement sur le podium, ce n'est plus Apple qui est numéro un mondial des smartphones.
Oui, vous savez, Stéphane, John, il y a deux champions qui ont perdu leur place ce week-end. Il y a en Allemagne le Bayern Munich pour la Bundesliga, et puis il y a Apple qui a perdu sa place sur le marché des smartphones au profit de Samsung. Et ça se passe pas à l'ouverture pour le géant à la pomme, puisqu'on perd 1,5%. Est-ce que cette nouvelle peut faire mal à Apple, John ?
Oui, parce que c'est un changement de tendance. On a vu que sur le premier trimestre, les ventes de iPhone avaient chuté de 10%, alors que globalement, les ventes de smartphones, eh bien, avaient légèrement augmenté. Donc, Apple va à l'encontre de la tendance. Et la société, donc, à la pomme, a expédié 50,1 millions de iPhone, alors que le consensus attendait 51,7 millions. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on a eu l'autre information concernant Samsung. Vous avez le gouvernement américain qui va accorder jusqu'à 6,4 milliards de dollars de subventions à Samsung, donc, pour que le groupe développe ses puces aux États-Unis, au Texas. Donc on voit ici que potentiellement, c'est un changement de leadership sur les puces et sur les smartphones. Donc très intéressant de regarder, et la réaction en bourse est tout à fait normale aujourd'hui.
Toujours dans l'actualité entreprise aux États-Unis, John, Tesla, le géant des voitures électriques, a annoncé une réduction du prix des abonnements à la conduite autonome.
Ouais, très important, Tesla, puisque on sait que Tesla souffre de la baisse globale des ventes de véhicules électriques, de la concurrence des acteurs chinois et des ventes un peu plus maigres en Chine. On a vu que Tesla avait déjà réduit le prix de ses véhicules aux États-Unis, en Chine et en Europe. Et bien là, tenez-vous bien, ses abonnements au logiciel de conduite autonome intégrale vont être baissés. Le prix de ceux-ci vont être baissés. Donc pour tenter de relancer les ventes, mais effectivement, ça aura un impact sur les marges, et on va l'apprendre dans la publication de leurs résultats ces prochaines semaines.
Et justement, on va parler de publication de résultats avec vous, Aude, dans le secteur bancaire.
Oui, après de premières banques déjà vendredi. Ce lundi, c'était Goldman Sachs qui publiait son premier trimestre avec des résultats au-dessus des attentes. Mais ça, c'était déjà le cas aussi vendredi. Mais là, ça devrait bien se passer aussi pour la suite parce que finalement, Goldman Sachs est plutôt dépendant des activités de marché et de banque d'affaires que les banques comme JP Morgan ou Wells Fargo. Et c'est d'ailleurs très, très bien applaudi cette publication, John, parce que le titre Goldman Sachs est déjà en augmentation de 5%.
Oui, tout à fait. Lorsqu'on regarde Goldman Sachs, on se focalise pas spécialement sur le bénéfice qui était de 4,13 milliards, mais vous l'avez dit, sur sa principale division banque globale et marché, puisque Goldman Sachs a revendiqué des très fortes performances à la fois sur les commissions de la banque d'investissement, plus 32%, des revenus fixes, devises, matières premières et des actions. Donc tout se passe bien de ce côté-là, mais il faut rappeler une chose, c'est que JP Morgan, et vous l'avez dit, Aude, vendredi, avait dit que la hausse des taux d'intérêt et des taux d'intérêt très élevés commençaient à impacter la demande des consommateurs et des entreprises pour de nouveaux emprunts.
Et puis on termine par cette information qu'on redoutait un peu, les difficultés de Boeing, John, commencent à avoir un impact sur les sous-traitants, notamment Spirit AeroSystems, c'est un fabricant d'éléments de fuselage et de supports de réacteurs.
Ouais, tout à fait. Il fallait s'y attendre, vous l'avez dit, puisque Spirit Aerospace va limiter les heures supplémentaires et les embauches en raison de la baisse de production, bien évidemment, des avions 737 MAX de Boeing qui ont été confrontés, on l'a dit déjà assez souvent, des problèmes de qualité après les incidents, notamment cette porte qui a disparu, qui s'est désintégrée en vol sur un vol de Alaska Airlines. Et donc, évidemment, Spirit Aerospace en subit les méfaits. Et donc, effectivement, on est dans une situation tout à fait classique pour tout ce qui entoure Boeing.
Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci également à Aude Kersulek. On se retrouve tout à l'heure à 16h pour la séance en cours sur le marché parisien. On passe à la bourse cash avec notre invité Marc Toiti, économiste, président du cabinet ACDFI. Bonjour Marc.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
Votre punchline, la phrase que vous êtes venu défendre en plateau en ces débuts de semaine, l'inflation et les taux d'intérêt vont rester élevés. Vous confirmez ?
Ben oui, complètement. C'est-à-dire, d'ailleurs, on vient de voir le chiffre des ventes au détail aujourd'hui aux États-Unis où tout va très bien, j'ai envie de dire, on a une croissance forte et surtout, on a eu les chiffres la semaine dernière de l'inflation américaine, 3,5%, ça repart à la hausse. Alors même si en France, dans la zone euro, l'inflation baisse, je rappelle que les prix augmentent. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça, mais si l'inflation baisse, pourquoi les prix augmentent? C'est très simple. L'inflation, c'est ce qu'on appelle un glissement annuel. Donc on regarde les prix au mois de mars 2024 par rapport à mars 2023. Si en mars 2024, ça augmente moins sur un mois qu'en mars 2023, eh bien le glissement annuel baisse, mais les prix continuent d'augmenter. Donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde, et même le glissement annuel est en train de redémarrer. Et vous verrez que ça va aussi nous arriver en France et en Europe à partir du mois de mai prochain. Et donc ce qui veut dire que si l'inflation augmente, eh bien les banques centrales n'ont pas les moyens de baisser fortement leur taux d'intérêt. Je pense qu'on pourra le faire dans la zone euro parce qu'on a, une quasi-récession, une croissance extrêmement faible, mais les Américains, ils ne peuvent pas le faire parce qu'on a un taux de chômage de plein emploi, une croissance forte et donc une inflation qui résiste bien. Et puis surtout, on va en parler sûrement, mais les indicateurs avancés de l'inflation, on a vu la semaine dernière les prix à la production qui continuent d'augmenter aux États-Unis et puis surtout les prix du pétrole, des matières premières qui aussi augmentent très nettement.
Est-ce que la BCE est consciente de ce risque, Christine Lagarde, dans sa dernière conférence de presse, parlait de boss pour l'inflation?
Alors, vous savez, comme Madame Lagarde avait dit il y a quelques mois, l'inflation vient de nulle part. Vous vous souvenez, je ne sais pas trop si elle est consciente de ce qui est en train de se passer. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, la Banque Centrale Européenne, elle court après l'inflation. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu arriver l'inflation dès 2021.
Ni la Fed, d'ailleurs.
Alors la Fed, elle a réagi
en retard.
Toutes les banques, vous avez raison, mais la Fed, elle a réagi dès la fin 2021. Nous, on a réagi à l'été 2022. C'est-à-dire, on a attendu que l'inflation soit à 11% pour commencer à monter les taux d'intérêt. Donc c'est évidemment trop tard. Et après, l'inflation, on l'a laissé s'installer. Donc elle est devenue incontrôlable. Je donne souvent l'image. L'inflation, c'est comme le dentifrice.
Il faut qu'il est sorti
du tube, pas le remettre dans le tube. Et donc c'est exactement pareil. C'est que on a laissé l'inflation s'installer. Après, évidemment, il y a eu ce contre-choc où finalement les cours des matières premières sont partie à la baisse, et donc l'inflation mécaniquement a baissé, mais encore une fois les prix continuent d'augmenter, et surtout on a une quasi-récession en Europe et en France, donc la BCE elle doit quand même baisser les taux d'intérêt, mais ne rêvons pas, elle ne peut pas le faire trop fortement, surtout que si la réserve fédérale américaine ne les baisse pas, qu'est-ce qui va se passer? Je rappelle que le taux monétaire aux États-Unis est à 5,50, taux monétaire dans la zone euro à 4,50, donc il y a 100 points de base d'écart, donc c'est un avantage au dollar. Hein. Si effectivement la BCE baisse les taux d'intérêt avant les Américains...
On risque d'avoir un phénomène de carry trade.
Exactement, c'est-à-dire que cet écart va se creuser, et donc l'euro va encore baisser, et si l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, notamment libellés en dollars, les matières premières en particulier, et à ce particulier-là, ça fait augmenter l'inflation. Donc l'inflation va encore augmenter, donc la BCE, elle sera bloquée. Donc moi, je pense qu'on aura deux baisses de taux d'intérêt de 25 centimes, peut-être une troisième, si vraiment ça va mal, mais pas plus. Et donc, par exemple, ceux qui comptent sur une baisse des taux d'intérêt pour que la croissance redémarre, pour que l'immobilier redémarre, soyez extrêmement prudents, ça ne va pas être le cas. Et puis surtout, ça c'est les taux monétaires, mais également les taux obligataires, taux d'intérêt des obligations d'État. Et là, comme vous le savez, on a une échéance très très prochaine, hein, la notation de la France, de la note de la France, donc qui risque d'être abaissée fin avril.
Deux agences dans quelques jours, voilà, et S&P à la fin du mois de mai.
Tout à fait, exactement. Et donc, si c'est le cas, et normalement, ça devrait être le cas, parce qu'on ne mérite pas notre double A, même notre double A moins, on ne le mérite pas, on mérite beaucoup moins. Et donc, ce qui veut dire qu'à partir de là, là, les taux d'intérêt qui ont des obligations d'État, qui sont à quasiment 3% aujourd'hui, eh bien, vont continuer d'augmenter. Donc, ce qui va casser l'activité économique.
Et est-ce que l'effet est systématique en cas de dégradation?
Alors, ça dépend de l'ampleur de la dégradation, et ça dépend, je dirais, du communiqué. C'est-à-dire que si effectivement on dégrade, on dit bon, c'est juste voilà un paraquis de conscience, etc. Ou si on dit non, perspective négative, il y a un problème. Et je pense qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la France en 2023 a été le seul grand pays de la zone euro qui a augmenté son déficit public. On est passé de 4,8 à 5,5. Faut pas l'oublier. Pour un pays comme le Portugal, qui est un très beau pays, ils sont passés d'un déficit à un excédent public de 2% du PIB. Comprenez? Même les Italiens, ils ont réduit par deux leur déficit. Et donc aujourd'hui, la France est un peu le passager clandestin où, malheureusement, on est les seuls à augmenter notre déficit. Donc il faut une sanction. On n'a pas le choix.
Et on compare souvent la situation de la France à celle de l'Italie, qui a un déficit plus important, mais qui a un solde primaire, l'Italie.
Tout à fait. Elle est en excédent primaire, c'est-à-dire que hors intérêt de la dette, ils sont en excédent depuis déjà des années. Hein. Mais surtout, quand on voit en 2023, ils ont fait des efforts pour réduire leur déficit. Plus que nous. Et donc, évidemment, ça fait défaut. Je rappelle que l'Italie, elle est triple B. Donc, c'est un petit peu injuste. Nous, on a une meilleure note que l'Italie. Alors, même si on est la France, hein, on est les plus beaux, comme vous le savez. Mais néanmoins, on a besoin, là aussi, d'une certaine justesse des agences de notation, une certaine équité. Et donc, pour l'instant, c'est pas le cas.
En matière de politique monétaire, la BCE devrait, en principe, annoncer une première baisse de taux au mois de juin. Si la Fed, de son côté, reste sur un statu quo, au moins jusqu'aux élections, ça va forcément réduire les marges de manœuvre de la BCE.
Ah, complètement, hein. La BCE, elle est prise à son propre piège. Elle ne pourra pas fortement baisser ce taux d'intérêt. Donc, elle va les maintenir, je disais, peut-être à 4%. Dans le meilleur des cas, on sera à 4%. Mais ça fera un écart de taux de 1,5 point avec le taux monétaire de la Fed. Donc, évidemment, l'euro va baisser. Donc, ça va faire augmenter, encore une fois, l'inflation. Donc, de facto, la BCE ne peut pas trop fortement baisser ce taux d'intérêt. Puis en plus, j'ai envie de dire, on le voit bien, la croissance est en train de revenir dans certains pays de la zone euro. Prenez l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, même l'Italie, ça va mieux. On voit les indicateurs des directeurs d'achat du mois dernier, ça va mieux. Hein, même l'indicateur de la zone euro en moyenne, on est sorti au-dessus de la barre des 50. Ça veut dire en phase de croissance. C'est la première fois depuis mai 2023. C'est formidable. Sauf que malheureusement, il y a deux grands pays qui sont toujours sous la barre des 50, l'Allemagne et la France. Et donc, c'est vrai que nous, on est un petit peu voilà, les parents pauvres et on risque de souffrir de cette moindre baisse des taux d'intérêt.
Pour tous ceux qui attendent avant d'acheter, qui souhaitent acheter un bien immobilier, le message est clair, on ne reviendra pas à la situation de taux d'intérêt extrêmement bas qu'on avait avant la crise sanitaire.
Ben non, il faut pas le souhaiter d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on est peut-être la troisième guerre mondiale, enfin on verra bien. C'est sûr qu'on va éviter tout ça, bien entendu, mais s'il n'y a pas de cataclysme, et je l'espère, bien entendu, j'espère qu'on va trouver des solutions, à ce moment-là, c'est sûr que les taux d'intérêt ne vont pas revenir au niveau de 1% comme on avait sur le taux d'intérêt à 20 ans pour les emprunts immobiliers. Ça, c'était complètement artificiel. Là, aujourd'hui, les taux d'intérêt immobiliers remontent vers des niveaux plus logiques, hein, c'est pas des niveaux très élevés, mais ça suffit justement pour faire baisser les prix. Donc je pense qu'on aura néanmoins une fenêtre de tir sur l'immobilier en 2025, parce que les prix auront bien baissé. À Paris, on est déjà à moins 15% par rapport au plus haut, et les taux d'intérêt auront un petit peu baissé, donc il faudra en profiter pour peut-être acheter à ce moment-là sur des taux d'intérêt relativement bas et parallèlement des prix qui auront baissé. Attention aussi, parce que si l'inflation redémarre, et ce qui est en train de se produire aujourd'hui, on peut même avoir une hypothèse de remontée des taux d'intérêt.
Oui, ça c'est le scénario que les banques centrales veulent absolument éviter.
Et certes, mais je veux dire encore une fois, si elles ne maîtrisent pas l'inflation, je rappelle que leur objectif, notamment de la BCE, son objectif unique, c'est l'inflation. Donc si on ne maintient pas, on n'arrive pas à obtenir ce bon objectif, qui est de 2%, évidemment, à ce moment-là, on perd en crédibilité.
Un dernier mot, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir avec nos invités cet après-midi. Comment est-ce que vous expliquez la réaction mesurée des marchés financiers aujourd'hui, malgré l'attaque contre l'État d'Israël ce week-end ?
C'est très simple, c'est que c'était quand même, je dirais, une belle claque pour l'Iran, finalement. C'est-à-dire que l'Iran a lancé 300 missiles et drones, et finalement, il n'y en a pas eu un qui a touché Israël, donc il n'y a pas eu de dégâts.
Mais le risque d'escalade aurait pu faire peur au marché.
Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'a priori, selon les rumeurs, il y a même des bombardiers israéliens qui sont partis vers l'Iran, puis finalement, ils n'ont pas été jusqu'au bout pour pas justement éviter l'embrasement, donc c'est plutôt salutaire. Espérons que ça va durer. Mais moi, je pense que le plus important de ce week-end, c'est le soutien de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite à Israël, finalement.
Et les appels au calme.
C'est très important parce que on l'oublie souvent aujourd'hui. Là, l'Iran, elle s'est mise un petit peu hors la loi. Donc peut-être que c'est le début de la fin du régime des mollahs en Iran. Et ça, c'est une super nouvelle. Parce que si c'est le cas, qu'on retrouve, on va dire, un pays comme l'Iran qui soit pacifié, entre guillemets, alors là, vous imaginez, le baril, il va tomber à 15 dollars. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est-à-dire
que 15 dollars, ça paraît ambitieux.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça peut être un mal pour un bien. Donc espérons que ça va s'arrêter là, globalement, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la clé, c'est l'Iran. Si le régime des mollahs tombe, à ce moment-là, on a devant nous un boulevard, je dirais, de croissance. Donc, peut-être sur ça que tablent les marchés. D'ailleurs, on voit le prix du baril qui a baissé. C'est assez fou quand même.
Il est passé sous la barre des 90 dollars.
C'est fou parce qu'il y a quand même des tensions énormes. Et donc, c'est un petit peu l'optimisme, on va dire, aujourd'hui des marchés. Donc, tant mieux, espérons qu'ils auront raison.
Merci beaucoup, Marc Toiti, économiste, président du cabinet Assez Défi. 15h52, Culture Bourse avec Julie Cohen.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Bonjour Julie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Vous connaissez le principe, pour savoir où est-ce qu'on va en bourse, il faut déjà comprendre où on en est. Et c'est ce que vous expliquez tous les jours avec votre expert.
Exactement. Si vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous les adressez, puisqu'on a des experts pour vous aider à y voir plus clair. Et vous le savez, désormais, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Et une question aujourd'hui, Julie, qui concerne un acteur historique des équipements de manutention en vrac.
Et c'est Charles qui a une question. Charles, il veut savoir ce qu'il faut penser de Stif. Stif qui a bien performé depuis son IPO en fin d'année. Mais Charles, il se demande quel est désormais son potentiel. On va voir cela tout de suite avec Marc-Antoine Barbé pour MCA Finance. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Marc-Antoine, quel regard vous portez sur ce titre ? Donc Stif, qui opère actuellement un virage stratégique avec notamment l'ouverture d'un segment dédié aux équipements de protection et qui évolue aujourd'hui autour de 11 euros.
Oui, tout à fait. Alors peut-être un rapide descriptif de ce qu'est la société. Donc Stif, c'était une société industrielle qui a été fondée en 1984, en fait, qui est située à une vingtaine de kilomètres de nos bureaux, près d'Angers. La société, elle avait d'abord démarré sur la fabrication d'éléments, donc pour la manutention en vrac des matières premières. Puis, à partir de 2010, elle s'est lancée sur la protection de poussière. Donc là, c'était plutôt à destination de l'industrie du bois. Et surtout, depuis 2022, elle explore un nouveau segment qu'on appelle les BES. C'est un fort relais de croissance. En fait, concrètement, c'est des trappes de protection à incendie pour le stockage de batteries électriques. C'est un marché qui devrait fortement augmenter dans les prochaines années. Et ce segment, il devrait représenter plus de 70% du chiffre d'affaires de la société dans les 3-4 prochaines années. Alors, vous l'avez peut-être vu, l'entreprise, elle a fait parler d'elle il y a quelques mois avec l'annonce d'un partenariat important avec le géant américain Tesla, qui représenterait un volume d'affaires de plus de 10 millions d'euros par an, donc ce qui est assez important pour la société. Et vous l'avez peut-être vu aussi, la société, elle a publié des résultats annuels 2023, qui était excellent, avec un chiffre d'affaires en croissance de plus de 13% à 35 millions d'euros et une augmentation de l'EBITDA de plus de 30% par rapport à 2022 à 4,7 millions d'euros, ce qui montre vraiment le potentiel important de ces nouveaux produits.
Donc, qui dit bon potentiel, a priori, on achète ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, la société s'est introduite en bourse en fin d'année dernière à 6,50 €. Donc, il y a une belle performance depuis, puisqu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 11 €. Donc, pour une IPO, vu l'historique ces dernières années, c'est une belle performance. Et c'est vrai qu'avec la montée en puissance du contrat avec Tesla, puis également l'amélioration des marges année après année, nous, on est plutôt confiants. La valorisation, elle est attractive. On est à 8,5 fois l'EBITDA estimé pour 2024. La société, elle n'a pas de dette. Elle devrait faire plus de 30% de croissance cette année. On est sur un marché porteur. Donc, nous, on est plutôt confiants sur le dossier. Et malgré la hausse du titre, ces derniers mois, nous, on reste encore très positifs sur la société.
Une réponse concrète. Merci beaucoup Marc-Antoine pour MCA Finance. Et si vous êtes comme Charles, si vous avez des questions, vous nous écrivez, vous pouvez aussi nous challenger sur les réseaux sociaux de BFM Business. Et bien entendu, cet extrait, vous pouvez le retrouver en replay sur notre site internet.
Et dans Culture Bourse, on aborde aussi des notions de finance et d'investissement. Aujourd'hui, on va parler d'un principe économique boursier un petit peu insolite, Julie.
Alors, j'ai une question pour vous, Stéphane. Est-ce que la météo a un impact sur vos stratégie d'investissement?
Alors, pas sur la mienne, mais je pense que le réchauffement climatique a clairement un impact sur les stratégies d'investissement.
Alors ça effectivement, c'est possible. Mais figurez-vous qu'il existe un principe économique boursier vraiment pas banal qui est connu sous le nom de l'effet météo et qui met en corrélation les conditions météorologiques et la fluctuation des marchés boursiers. Alors, autrement dit, figurez-vous qu'il y a certains analystes qui estiment que les jours ensoleillés peuvent avoir un impact positif sur les marchés financiers et ils encouragent donc les investisseurs à être un petit peu plus optimistes, à prendre des risques. Et donc, bah, forcément, les jours de pluie, les jours un petit peu plus moroses, eh bien, ils auraient une influence négative sur le moral des investisseurs. Et donc, pour le coup, il faudrait rester un petit peu plus sage si on suit cette théorie. Donc ça, c'est pour le principe. Mais évidemment, cette théorie, elle est assez farfelue sur le papier. Il y a plusieurs études qui ont quand même examiné l'effet météo sur les marchés financiers et ont trouvé parfois des corrélations intéressantes.
Sauf que, Julie, c'est pas parce que cette théorie météorologique existe qu'elle est forcément acceptée par la communauté financière.
Ah oui, alors même pas du tout. Il y a les études menées sur ce sujet qui ont suivi le produit des résultats contradictoires. Ça permet pas du tout de tirer des conclusions définitives sur l'existence d'une corrélation significative entre météo et fluctuation des marchés boursiers. Cette théorie, elle est donc finalement assez farfelue. Se baser sur l'état du ciel pour effectuer ces arbitrages, c'est plutôt audacieux, pour ne pas dire dangereux. Mieux vaut rester concentré sur des fondamentaux plus sérieux comme la macroéconomie, la microéconomie, en mêlant donc ces données. Mais c'est vrai, Stéphane, que si on devait se fier chaque jour à la météo parisienne, on ne serait pas prêt d'investir, encore moins de prendre des risques.
Merci beaucoup, Julie Cohen, Culture Bourse, tous les jours dans BFM Bourse. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité économique, ce sera avec Marjorie Adelson. Et puis, on reviendra sur la séance en cours à la Bourse de Paris. Le marché parisien progresse de pratiquement 1,3%. Il n'y a pas eu de mouvement de panique aujourd'hui malgré l'attaque contre l'État d'Israël ce week-end. On expliquera pourquoi, notamment avec Eric Lewin qui sera avec nous pour commenter cette séance à la Bourse de Paris. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.